Le titre de mon partage ce matin est très clair et sans appel. J'ai dit, ils veulent tuer Jésus. Ils veulent tuer Jésus. Ces dangers que je vais vous exposer sont des entités qui ont pour objectif de tuer Jésus. J'ai réalisé en lisant ma Bible que lorsque Jésus-Christ a été introduit dans le monde des hommes, la vie de Jésus n'a pas été de tout repos. Dès que Jésus-Christ a été introduit dans l'humanité, il y a des entités qui se sont levées avec un objectif, le tuer. Et voyez-vous, ce qui s'est passé au temps de la naissance de Jésus, de l'introduction de Jésus dans le genre humain, et ce qui continue à se passer lorsque un individu reçoit Jésus dans sa propre vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Lorsque vous vous convertissez, il y a des puissances qui se mettent en mouvement pour tuer Jésus à l'intérieur de vous. Je lance un appel aux chrétiens aujourd'hui et je veux vous dire cette vérité. Pendant que vous êtes en train de vous amuser, pendant que vous n'êtes pas sérieux dans votre foi, il y a des puissances sataniques qui ont un seul objectif. C'est de tuer Jésus à l'intérieur de votre cœur, c'est de tuer Jésus à l'intérieur de votre vie, c'est de vous séparer de la personne de Christ pour l'éternité. Cela a commencé depuis sa naissance et cela continue parce que en réalité, lorsque quelqu'un accepte Jésus, Jésus-Christ naît à l'intérieur de la personne. Il y a comme une nouvelle naissance de Jésus dans chaque individu. Et cette naissance de Jésus apporte des bénédictions. Cette naissance de Jésus apporte des avantages. Mais elle apporte aussi des contradictions. Elle apporte aussi des dangers. Elle appelle aussi des entités sataniques à se lever pour détruire Jésus. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous convertir et ne pas combattre. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous convertir et ne pas être ferme et inébranlable dans votre foi. Vous ne pouvez pas vous convertir et continuer à vivre la fleur à la bouche comme si de rien n'était. Parce que accepter Jésus, c'est s'engager dans une guerre. Quelqu'un dit amen. Accepter Jésus, c'est s'engager dans une guerre. Et voyez-vous, la guerre n'attend pas que vous soyez un adulte en Christ. Dès que Jésus est né, il était bébé. La Bible déclare que le roi Hérode cherchait l'enfant pour le faire mourir. Notre Bible nous dit ceci. En Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18, et c'est le premier danger, le danger Hérode. Lorsque vous acceptez Jésus, il y a un danger qui est mandaté pour le tuer dans votre vie, c'est le danger Hérode. En Matthieu 2, 16 à 18, il est dit ceci. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Il était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. La naissance de Jésus est entouré d'un bain de sang. Lorsque Jésus-Christ est né et qu'Hérode a entendu que le roi des Juifs venait de rentrer dans le monde, l'objectif clair d'Hérode a été de produire la mort autour de lui dans l'espoir de tuer Jésus. Et cet événement n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est produit lorsque Moïse lui-même est né. En réalité, le libérateur que nous professons et que nous adorons aujourd'hui, Jésus, a été prophétiquement préfiguré par Moïse, qui était le libérateur d'Israël. Et la Bible nous montre que lorsque Moïse est né, Pharaon a eu pour objectif, à ce moment précis, de tuer tous les enfants hébreux mâles. Donc ce que j'affirme ce matin, c'est que lorsque le libérateur, lorsque la solution à tous tes problèmes est mise en contact avec toi, il y a une entité satanique et démoniaque qui se dresse pour emmener cette solution à mourir. Le diable veut tuer ton Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que Hérode se lève? qu'est-ce que tu vas faire alors que Hérode a déjà arrêté ses décisions? Est-ce que tu vas continuer à vivre comme si Hérode n'existait pas? La Bible déclare qu'on a entendu des pleurs et des lamentations à Rama. Parce que ceux qui ne savaient pas qu'Hérode s'était levé n'ont pas pris les dispositions pour préserver leur enfant. Ceux qui ne savaient pas qu'Hérode s'était mis en mouvement n'ont pas pris les dispositions pour préserver ce qu'ils avaient de plus cher. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne prennent pas les dispositions pour protéger leur foi de l'action d'Hérode. Les actions d'Hérode sont très simples à décrire. Hérode est une matérialisation des systèmes de gouvernement dans lesquels nous évoluons. Hérode est une personnification des lois et des décisions qui sont prises au niveau de la société. Parce que Hérode ne veut pas vous donner l'impression que c'est vous qu'il est en train de combattre. Hérode va voter des lois générales qui s'appliquent à tout le monde. Hérode va dire à partir d'aujourd'hui, tous les enfants jusqu'à 2 ans sont tous tués. Tu ne sais pas qu'il est en train de faire tout cela au-dessus simplement parce qu'il est en train de viser ton Jésus. Tu ne sais pas qu'ils sont en train de voter cette loi. Ils en font tout un bruit au Parlement simplement parce qu'ils sont en train de viser ta solution. Tu ne sais pas qu'en réalité c'est à cause de toi, à cause de ce que tu représentes pour ta société, qu'il y a des décisions qui sont négociées dans les hauts lieux. Hérode est rusé. Il sait que si jamais tu es au courant que c'est toi qu'il est en train de viser, tu vas tout faire pour sécuriser tes promesses. Tu vas tout faire pour sécuriser tes solutions. Tu vas tout faire pour cacher et pour garder ton Jésus. Tant que tu ne sais pas, tu restes à sa merci. La réalité, c'est que Hérode a à son service la puissance de l'État, les services médiatiques et les services économiques qui servent les desseins d'Hérode. À partir d'aujourd'hui, nous décidons qu'il n'est pas bon pour un homme de se marier seulement avec une femme. Nous considérons qu'un homme doit pouvoir se mettre aussi avec un homme. Et vous êtes là et vous vous plaignez, vous dites, ah vraiment, ce monde, ah, ce pays, il va à la dérive. Vous ne vous rendez pas compte que la raison pour laquelle ces lois sont votées, c'est qu'on veut tuer Jésus. Vous êtes la raison pour laquelle ces lois sont votées. Je veux vous aider. Parce que lorsque ces lois sont votées de façon nationale, elles descendent sur tout le peuple. Et tout le peuple est impacté par ces lois. Et lorsque vous mettez votre téléviseur, vous regardez un homme qui embrasse un autre homme. Et lorsque vous allez dans le métro, vous voyez des images avec un homme qui embrasse un autre homme. Et lorsque vous allez, tout cela est fait dans le but de tuer Jésus à l'intérieur de vous. J'appelle aujourd'hui les chrétiens à se réveiller parce qu'ils veulent tuer Jésus. Nous devons nous lever parce qu'ils veulent le tuer. Ils ne veulent pas seulement l'attraper. Ils ne veulent pas seulement le mettre en prison. Ils ne veulent pas seulement le museler. Ils veulent le tuer. Parce que Hérode n'a pas réussi à tuer Jésus. Je loue Dieu parce que malgré les décisions médiatiques, les décisions économiques et les décisions parlementaires, Jésus n'est pas mort. Voyez-vous, tous les soldats de l'Empire avaient été mis à contribution pour tuer Jésus. Et Jésus n'est pas mort. Ça veut dire que même lorsque tous les appareils d'État se liguent contre toi pour tuer cette foi, cette espérance que Christ a mise à l'intérieur de toi, ils ne réussiront pas si et seulement si tu as la bénédiction de Joseph. Parce que la Bible m'enseigne qu'au moment là où Hérode s'est levé, Dieu aussi s'est levé et il a agi à travers Joseph. Il doit y avoir quelqu'un qui a une portion de lui qui réagit comme Joseph. Vous savez, Joseph, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. Mais s'il n'y avait pas Joseph, nous n'aurions pas Jésus. S'il n'y avait pas Joseph, il n'y aurait pas eu crucifixion. S'il n'y avait pas eu Joseph, il n'y aurait pas eu résurrection. Jésus serait mort sous la main d'Hérode. Et il y a beaucoup de gens qui laissent Jésus mourir à l'intérieur d'eux parce qu'ils n'ont pas Joseph à côté. Parce qu'ils ont méprisé Joseph. Parce qu'ils ont négligé Joseph. Joseph est la portion de toi qui reçoit la révélation. C'est par révélation que tu peux vaincre Hérode. La Bible m'enseigne que alors qu'Hérode dans les hauts lieux avait pris sa décision, Joseph ne savait pas ce qui allait se passer. Joseph n'était pas un conseiller du roi, mais dans sa maison, sur sa couche, alors qu'il dormait, alors qu'il semblait ne rien faire, il était en train de télécharger les informations depuis le ciel. Et lorsque tu commences à télécharger les informations du ciel, quelles que soient les résolutions qui sont prises dans les hauts lieux, toi tu es dans un lieu encore plus élevé. Quelqu'un dit amen. Réveille la portion de Joseph à l'intérieur de toi. Sinon, ton Jésus va mourir. Ma Bible me dit que Dieu a commencé à parler. Quelqu'un dit, je réveille Joseph. Je réveille mon Joseph. Je réveille mon Joseph. C'est bizarre, hein? Parce que ce Joseph-là, il porte le même nom qu'un autre Joseph qu'on appelait le maître des songes. C'est bizarre, hein? Parce que ce Joseph-là, il porte le même nom que quelqu'un qui téléchargeait les informations sur sa couche. Il savait qu'il régnerait. Il savait qu'il dominerait. Il savait qu'il avait une grande destinée. Comment il le savait? Par révélation. Bien-aimés, nous avons besoin de la révélation aujourd'hui. Si nous voulons préserver Jésus, sans révélation, le peuple meurt. Mais sans révélation, Jésus aussi meurt. Vous êtes dans des églises dans lesquelles il n'y a aucune révélation, votre Jésus va mourir. Si vous êtes dans un endroit dans lequel vous n'entendez jamais de révélation, votre Jésus va mourir. Vous avez besoin régulièrement d'entendre des révélations au sujet de Dieu, d'entendre des choses que l'on ne connaissait pas, d'entendre des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses que l'œil n'a point vues. Vous avez besoin d'être dans un espace dans lequel on ouvre la Bible et vous regardez, vous dites « Oh !» Donc c'est ça que ça veut dire. Depuis que je lis ce passage, depuis que je dors sur ce lit, je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Mais voilà ce que le Saint-Esprit est en train de me révéler. Tu as besoin de réveiller Joseph. Ma Bible m'enseigne que pendant qu'il était sur sa couche, Dieu a parlé à Joseph. Il lui a dit, prends le petit enfant. Prends-le maintenant. Maintenant, prends-le. Prends le petit enfant. Et emmène-le en Égypte, parce que Hérode cherche à le faire mourir. Joseph n'a pas dit, oh, Jésus est quand même le Fils de Dieu. Rien ni personne ne pourra le tuer. La Bible déclare que tout de suite, dans la nuit, Joseph s'est levé. Il a pris le petit enfant et ils sont partis en Égypte. Tu sais comment est-ce qu'on peut vaincre Hérode? On ne vainc pas Hérode la journée, on le vainc dans la nuit. On ne se lève pas contre Hérode la journée, parce que la journée, Hérode a les soldats. Parce que la journée, Hérode a les politiciens. Parce que la journée, Hérode a le gouvernement. C'est la nuit que l'on veut Hérode. Ça veut dire quand tout le monde dort, c'est là où toi tu te lèves. Il y a quelque chose que tu dois faire la nuit pour sécuriser ton Jésus. Quelque chose que tu dois faire lorsque personne ne te regarde. Lève-toi et donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. J'ai besoin que quelqu'un m'aide aujourd'hui. Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. Parle en langue, dis quelque chose. Pendant la nuit, pendant le secret, là où personne ne te regarde, là où personne ne te voit, quelque chose doit se faire, quelque chose doit se dire pendant la nuit, alléluia. C'est ça qu'il faut faire pendant la nuit. Tu ne peux pas vaincre Hérode pendant la journée. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont essayé et ils n'ont pas réussi. Parce que c'est dans le secret. Vous avez des gens qui sont de grands chrétiens lorsque tout le monde les voit. Lorsqu'ils sont devant tout le monde, c'est là où ils parlent de Jésus. Lorsqu'ils sont devant tout le monde, c'est là où ils disent des choses sur Jésus. Mais les choses qu'ils disent sur Jésus n'ont aucun impact parce qu'ils n'ont pas payé le prix pendant la nuit. Vous savez, même Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, il les avait guéris déjà la nuit avant de venir les guérir la journée. La Bible dit que quand tout le monde allait dormir, Jésus allait sur la montagne et Jésus priait. Jésus priait. Pendant la nuit, il était en train de confronter Hérode. Pendant la nuit, il était en train d'arracher les âmes. Même lorsqu'il fallait nous enfanter dans le jardin de Gethsémané, c'était pendant la nuit. Que Jésus était en train de prier, que Jésus était en train d'intercéder pour nous. C'est pendant la nuit que tu peux vaincre Hérode. Quand personne ne te voit, quand ton pasteur ne sait pas, quand ton pasteur n'est pas là pour t'encourager, quand personne n'est autour de toi pour te dire c'est bien, est-ce que tu payes le prix pendant la nuit? Bien-aimé, aujourd'hui peut-être que Jésus bouge à l'intérieur de toi, mais si tu ne payes pas le prix pendant la nuit, ce n'est qu'une question de temps, il va mourir. Si tu n'es chrétien qu'au moment là où tu viens à l'église, là où tes frères et tes sœurs sont là pour t'encourager, ce n'est qu'une question de temps, ton Jésus va mourir. Parce que tu te limites simplement à la journée pour être chrétien. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit? Hérode se combat et se vainc la nuit. La Bible déclare que c'est de nuit que Joseph a pris le petit enfant et sa mère. Ce n'est pas Joseph à qui on avait dit tu seras enceinte. Ce n'est pas Joseph qu'on avait dit que Marie, non, en fait on avait dit peu de choses à Joseph. Mais ce que j'aime avec lui, c'est que dès qu'on lui disait une chose, Joseph faisait. Quand Marie a été enceinte, avant qu'ils n'habitent ensemble, Joseph a commencé à dire peut-être que la petite là, elle m'a escroqué. Peut-être qu'elle est allée avec un autre homme. Tout de suite, Dieu lui a révélé non. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. N'aie pas peur de l'apprendre. Joseph s'est réveillé. Joseph est parti, il a pris Marie, il l'a ramené. Mais si c'était toi, tu allais dire, Seigneur, si c'est la vérité, laisse d'abord le tonnerre, que j'entende le tonnerre. Si c'est toi, laisse d'abord que je vois les éclairs. Si c'est toi, Seigneur, parle-moi. Pourquoi tu as besoin de 50 révélations pour faire une chose? Une révélation, une action. Une révélation, une action. Une révélation, une action. Il faut agir en fonction de ta révélation. Tu es en train de perdre du temps pour l'accomplissement de ta prophétie parce que tu attends 50 prophéties pour une chose. Une révélation, une action. Arrêtez de gaspiller les révélations. Dis à ton voisin, arrête de gaspiller les révélations. Je vous l'assure, si chacun d'entre nous dans cette église, si chacun d'entre nous dans cette église, nous avions commencé à agir en fonction de nos révélations, nous ne serions plus là où nous sommes. Si toi dans ta vie, à chaque révélation tu avais agi, tu te souviens du jour là où tu t'es levé le matin et Dieu t'a dit, tu sais, il est temps que tu me donnes ta vie. Si tu avais agi à ce moment-là, le problème que tu as eu une semaine après, tu ne l'aurais pas eu. Si tu avais agi à ce moment-là, la maladie que tu as eu un an après, tu ne l'aurais pas eu. Quand Jésus t'a révélé que il est temps que tu travailles vraiment à mon service, tu pensais que ce que Jésus voulait, c'était ton argent? Tu pensais que Jésus voulait t'exploiter, mais en réalité, Jésus connaît toutes choses. Il voyait ce que le diable était en train de prévoir pour toi l'année d'après. Mais comme tu n'as pas agi sur la base de la révélation, tu es rentré dans des problèmes que Jésus n'avait jamais prévus pour toi. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation? Et Jésus te répond, parce que tu n'as pas agi au moment de la révélation. Quelqu'un dit pendant la nuit, je dois vaincre Hérode. Pendant la nuit, vous savez que Moïse ne faisait pas autre chose. La Bible m'enseigne que quand Moïse est venu parler à Pharaon, il est venu avant, juste au moment de l'aurore, juste avant que le soleil ne se lève. Pharaon était sur le bord du rivage, du Nil. Et c'est à cet endroit-là que Moïse est venu le retrouver en disant, laisse partir mon peuple. Ça veut dire que pendant la nuit, il y a des choses que tu peux faire, que tu ne peux pas faire pendant la journée. C'est pendant la nuit que Pharaon commence à faire ses choses. C'est pendant la nuit qu'il est en train de faire ses plans. Toi, tu viens pendant la journée pour le combattre. En réalité, il a déjà gagné pendant la nuit quand tu dormais. Et Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi une heure. L'arme de Dieu contre Hérode, c'est la révélation et l'action. Je reçois la révélation et j'agis. Je n'agis pas forcément pour que tout le monde voie. Je n'agis pas pour que les gens chantent mes louanges. Je n'agis pas pour que le pasteur chante mes louanges. J'agis pendant la nuit. Et tu sais, par rapport à l'offrande, Jésus dit quelque chose de similaire. Quand tu donnes, il faut que ta main gauche ignore ce que ta main droite a donné. Ça veut dire que même ton offrande, tu dois la faire la nuit. Tu dois apprendre à donner sans attendre en retour que tout le monde acclame le Seigneur parce que tu as donné. C'est quoi cette histoire? Les gens se lèvent et disent, moi pasteur, je donne 1000 euros dans l'église. Tu as besoin qu'on entende que tu vas donner 1000 euros. Ça c'est la journée. Ça c'est la journée. Mais Hérode, on l'affronte pendant la nuit. La Bible déclare que Jésus-Christ est resté en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Hérode était en vie. Hérode pensait qu'il avait peut-être réussi à tuer Jésus. Hérode est mort, Jésus était toujours vivant. Jésus a survécu à Hérode. Si tu sais baser ton christianisme sur la révélation, ton christianisme survivra toujours au gouvernement. Les présidents vont se succéder les uns les autres. Mais parce que ton christianisme est basé sur la révélation, ils n'auront pas d'impact sur toi. Les lois vont être votées les unes après les autres. Mais si ton christianisme est basé sur la révélation, les lois n'auront pas d'impact sur toi. Quelqu'un dit amen. Il y a un deuxième danger auquel Jésus-Christ a dû faire face. Et c'est un danger qui ne concerne pas seulement ceux qui vont se faire baptiser. En fait, les dangers dont je vous parle s'appliquent à tous les chrétiens. Mais ce danger particulièrement est celui que je retrouve le plus dans le corps de Christ. C'est le danger des pharisiens. Oui. La Bible m'enseigne que lorsque Jésus-Christ a grandi, il est passé, il a grandi, il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Devant Dieu, devant les hommes, il accomplissait des miracles. Il disait des choses merveilleuses, mais il y a un groupe de personnes qui se consultaient. C'est ce qui nous est dit en Marc, chapitre 14, versets 1 à 2. La Bible dit que la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse, dis avec moi par ruse, et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. La caste qui est formée par les sacrificateurs, par les scribes, par les sadducéens, par les pharisiens, représente le système religieux de l'époque de Jésus. Et voyez-vous, l'un des dangers auxquels vous allez faire face en tant que chrétien, c'est le danger de la religion. Parce que lorsque vous avez commencé à recevoir la révélation, c'est bizarre, mais souvent, la révélation se heurte à la religion. Lorsque Dieu vous a parlé dans le secret de votre chambre, et que vous venez dans l'église avec ce que Dieu vous a dit, vous êtes confronté parfois à un système qui vous dit « ce n'est pas vraiment Dieu qui t'a parlé ». Vous êtes confronté parfois dans l'église à des gens qui vous disent « je ne suis pas convaincu de ce que Dieu a vraiment dit cette chose que tu me dis là ». Parfois ce sont des gens qui sont en autorité dans l'église. Parfois ce sont simplement des frères et des sœurs en qui vous avez confiance. La révélation est souvent tué dans l'église par la religion. Lorsque Dieu a dit que tout le peuple se lève et que tout le peuple crie, que tout le peuple élève sa voix, que tout le peuple prie, vous avez des gens qui commencent à dire « oui, mais dans cette église, d'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Lorsqu'on était avec le pasteur tel, ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Lorsqu'on était avec le pasteur tel, ce n'est pas ce qu'on a fait. » Et vous commencez à réfléchir en disant, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a parlé? Est-ce que nous devons vraiment agir? Je vais vous apporter une révélation. Souvent, il arrive que Dieu vous dise quelque chose aujourd'hui et qu'il change la chose qu'il vous a dite demain. Il arrive que Dieu vous donne une prophétie aujourd'hui. 5 minutes après, la prophétie change. Il a dit, Abraham, offre-moi en sacrifice ton fils Isaac. Dès qu'Abraham a voulu sacrifier, Dieu a changé. Ne sacrifie plus ton fils Isaac. Le même Dieu de langage. Le même Dieu, Dieu parole, de parole. Le même Dieu de prophétie. Le même Dieu de promesse. Le même Dieu. Quand je vous ai parlé de l'obéissance, l'obéissance est désobéissance quand elle est accomplie en différé. Si tu reçois la révélation aujourd'hui et que tu dis « Seigneur, je vais obéir la semaine prochaine », entre aujourd'hui et la semaine prochaine, il est possible que Dieu ait changé. Et ton obéissance de la semaine prochaine devient ta désobéissance d'hier. Révélation, action instantanée. Révélation, action immédiate. C'est au moment là où Dieu dit que l'homme doit faire. Parce que ce n'est pas, et nous devons arrêter, ce n'est pas à Dieu qui est notre Dieu de nous attendre. Parce que notre Dieu est notre autorité. Et c'est nous qui devons, non, nous ne devons plus faire attendre Dieu. Quand Dieu a parlé, il faut faire. Il y a un système de religiosité qui rentre lorsqu'on se base sur l'écho de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'entend plus Dieu parler, mais on se souvient qu'on l'a entendu parler il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a quelques semaines. Et comme il parlait il y a quelques années, on continue à vivre aujourd'hui sur la base de ce qu'il a dit il y a quelques années. Il y avait des siècles, Dieu avait dit, vous devez m'adorer à Jérusalem. Jésus-Christ arrive, l'heure vient, elle est déjà venue. Où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que l'on m'adorera, Mais moi, je cherche ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit, ce sont là les adorateurs qu'il recherche. La Bible nous enseigne que les sacrificateurs n'étaient pas d'accord avec le discours de Jésus. Et vous savez quoi? Les religieux ne sont souvent pas d'accord avec la révélation. Parce que la révélation change leurs prérogatives. C'était les sacrificateurs qui mangeaient les offrandes que l'on apportait pour Dieu. Et Jésus-Christ arrive, il dit, on ne va plus venir adorer à Jérusalem. Les sacrificateurs, on dit, non, mais ce gars-là, il n'est pas bien. Ce gars-là, il est en train de venir nous ôter le pain de la bouche. Nous, on veut garder nos offrandes. Donc, la solution, c'est de tuer Jésus et de combattre la révélation. Opposition physique avec Hérode, première action du diable. Et opposition dans les idées avec les sacrificateurs et les sadducéens. Pourquoi? Parce qu'avant que quelque chose n'existe, elle doit être conçue avant d'être posée dans le monde. Hérode combat le physique. Les pharisiens, les sadducéens combattent les idées. Et à plusieurs reprises dans la Bible, ils sont venus pour trouver Jésus en défaut et pour lui poser des questions colle. Est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à César? Mais comme Jésus était basé sur la révélation, Jésus trouvait toujours le moyen de sortir de leurs problèmes. Élie, de qui est l'effigie sur cette pièce? De César. Alors donnez à César ce qui est à César. Où? Mais n'oublie pas de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. La religiosité est le deuxième danger auquel nous faisons face en tant que chrétiens. La religiosité devient un système de routine. C'est quand vous avez accepté Jésus, vous avez marché avec Jésus, Jésus vous a étonné par le passé, à un moment donné, vous devenez habitué à Jésus. Vous ne venez plus à l'église avec votre cœur, vous venez à l'église avec votre religiosité. Vous venez simplement poser des actions routinières mais qui n'ont plus d'impact dans votre cœur. Et Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que vous avez été affecté par la religiosité. Je parle aujourd'hui et je sais qu'il y a des gens qui sont malades de cela dans cette église. Vous n'arrivez plus à être passionné pour les choses de Dieu. Lorsqu'une instruction vous est donnée, vous avez du mal à vous lever et à bouger pour que cette instruction voie le jour. Vous êtes devenu lourd pour faire les choses que Dieu vous demande. Pas parce que vous n'êtes plus chrétien, parce que vous êtes devenu religieux. Le problème, ce n'est qu'une affaire de temps. Vous êtes religieux aujourd'hui et tout le monde a l'impression que vous êtes un bon chrétien. Mais donnez-vous simplement quelques années. Ça commence toujours par là. Avant de rétrograder, on devient un bon religieux. Dis ça à ton voisin. Avant de rétrograder, on devient d'abord un bon religieux. Un bon religieux, c'est quelqu'un qui vient à l'église, il vient même toutes les réunions. Sauf que quand il vient, il n'est pas dedans. Moi, franchement, pour moi, cela demeure un mystère. Un mystère que je ne veux pas sonder, parce que moi, je sonde les mystères que Dieu a cachés, pas que les hommes ont cachés. Ma gloire, c'est de sonder les mystères que Dieu a cachés. Mais il y a quand même un mystère. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut mettre à part son temps. Dire, moi, je vais à l'église. Il sait qu'on va à l'église pour prier. Et il arrive à l'église, quand on dit prions, il regarde les autres. Moi, pour moi, cela demeure un mystère. Il dit, moi, je vais à l'église. Il sait qu'à l'église, on va pour adorer Dieu. Et puis quand on dit adorons, il regarde les autres, mains dans les poches. Il sait qu'à l'église, on va lui dire, donne l'argent à Dieu. Est-ce que vous ne savez pas ça quand vous venez le dimanche? Ça arrive comme ça tous les dimanches, c'est systématique. D'ailleurs, même quand le pasteur oublie, tout le monde lui rappelle, pasteur, on a oublié l'offrande. Donc, vous savez systématiquement que chaque fois que vous viendrez dans une église, on vous demandera l'argent à Dieu. On vous dira de donner l'argent à Dieu. Amen. On vous parlera d'argent. Amen. Mais alors, pourquoi vous êtes dérangé quand on vous parle d'argent? Tu as pris ton temps. Tu es monté dans ton train. Tu as marché. Tu es rentré dans l'église. Tu t'es assis dans l'église que l'on paye avec l'argent. Tu as écouté la louange, le courant que l'on paye avec l'argent. Tu as bénéficié du vent du ventilateur dont on paye l'électricité avec l'argent. Et quand on te dit donne l'argent, tu commences à dire ah, on demande toujours l'argent. Tu es devenu religieux. Mais quand tu n'es pas religieux, quand la passion de l'évangile est à l'intérieur de toi, tu cherches les opportunités pour donner. Tu cherches le moyen de donner. Tu cherches le moyen de semer. Parce que tu sais que tu ne donnes pas un homme. Tu sais que tu ne donnes pas une organisation humaine. Mais tu sais que tu donnes à Dieu. Et que Dieu n'est jamais débiteur de personne. Quelqu'un se lève et dit, je veux donner à Dieu. Hey! C'est ça qui va vaincre la puissance de la religion à l'intérieur de ta vie. Jésus était tout entier au Seigneur. Il appartenait tout entier à Dieu. Et à cause de cela, les pharisiens, la religiosité ne pouvait pas avoir de prise sur lui. Un autre homme était tout entier à Dieu à cette même époque. C'est Jean-Baptiste. Ce que vous ne savez pas, c'est que la vie de Jean-Baptiste aurait pu être totalement différente. Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Zacharie était sacrificateur en Israël. Et donc, de par sa naissance, Jean le Baptiste appartenait à la famille des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateur, Jean le Baptiste avait le droit de manger les offrandes. Jean le Baptiste avait le droit de manger les... Mais en réalité, lorsqu'il est né et qu'il a entendu la voix de Dieu, Jean-Baptiste est allé dans le désert manger les sauterelles sauvages et manger le miel sauvage. Jean-Baptiste s'habillait de peau de chameau alors que ses frères étaient dans le temple vêtus de vêtements précieux, vêtus de fin lin, parce que Jean-Baptiste a refusé la religion. Parce qu'il a dit, je ne vivrai pas dans ce système-là. Il y a quelque chose qui doit être changé. Il est parti dans le désert et il a commencé à dire, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. C'est Jean le Baptiste qui a confronté Hérode et qui lui a dit, Hérode, tu es un pécheur. Il n'était pas permis de prendre pour épouse la femme de ton frère. Jean le Baptiste n'a pas peur des systèmes du monde. Jean le Baptiste n'a pas peur des systèmes du gouvernement. Une fois tu as reçu la révélation, une fois tu as agi en accord avec la révélation, voici maintenant le niveau de Jean-Baptiste qui arrive à l'intérieur de toi. La capacité de proclamer, la capacité de confronter de face. Je dis que nous les confronterons. Nous irons dans ces zones, dans ces endroits où on a dit l'évangile ne passera pas par ici. Il y a quelques années, Dieu m'a parlé en me disant, je t'envoie dans la ville de Bordeaux pour confronter l'esprit de Bacchus. Bacchus, c'est le dieu du vin. Avec mon équipe, j'avais créé une association d'évangélisation Génération Oméga. Nous sommes allés et nous avons commencé à établir le plan d'action. Dieu a fait des choses extraordinaires. Nous allions systématiquement chaque samedi, chaque vendredi soir, nous prenions la route. Et nous arrivions à Bordeaux. Et toute la journée, nous étions dans la ville, sur des places stratégiques, et nous étions en train de prêcher l'évangile. Le dernier jour, là où nous sommes arrivés, ce n'était pas calculé. En réalité, c'était calculé par Dieu. Nous sommes allés sur une place où nous avons prêché l'évangile pendant toute la journée, pour nous rendre compte le soir que dans la rue juste derrière, la Gay Pride était en train de passer. Dieu nous a emmenés exactement prêcher l'évangile à un endroit là où on avait dit, ici, personne ne doit prêcher, ici c'est le diable qu'on va glorifier. Parfois tu n'es même pas au courant, mais comme ta vie est basée sur la révélation, Dieu t'envoie pour confronter les religieux. Dieu t'envoie pour confronter les sadducéens. Dieu t'envoie pour confronter ceux qui ne vivent plus sur la révélation, mais qui vivent sur la base de la tradition. Le danger avec la tradition, c'est qu'il faut l'adapter. Quand votre christianisme est basé sur la tradition, sur la religion, vous avez des phases de la société, là vous essayez d'adapter votre religion et votre croyance à ce que la société estime bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les religions du monde. On est en train de réfléchir comment légitimer certaines choses que Dieu a appelées le péché, parce que c'est des religions dans lesquelles on se trouve. Et on a, vous savez, l'homme a la main sur la religion. Il n'a pas la main sur la révélation. Il n'a pas la main sur la foi. Il a la main sur la religion. La religion se définit comme l'ensemble des moyens humains mis aux dispositions des hommes pour qu'ils puissent se rapprocher de Dieu. La foi, c'est le moyen que Dieu a disposé pour se révéler aux hommes. Les hommes ont la main sur la religion. Ils n'ont pas la main sur la révélation. Ils n'ont pas la main sur la foi. Peut-être qu'on te contrôle trop aujourd'hui parce que tu es religieux. Deviens un peu un homme de révélation. Peut-être qu'on te contrôle trop et on sait trop ce que tu vas faire à l'avance. Avant même que tu n'ouvres la bouche, on sait déjà ce que tu vas dire. Il faut changer un peu. Tu sais, quand Jésus est venu, on a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il disait des choses qu'on n'avait jamais entendues jusque-là. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le danger pharisien, c'est celui qui consiste à entendre une parole de Dieu il y a 10 ans. et d'arrêter d'entendre Dieu à partir de ce moment-là. Alors que Dieu, il nous donne quotidiennement une parole. Jésus dit à ses disciples qui lui demandent « Enseigne-nous à prier ». Il dit « Lorsque vous priez, dites « Donne-nous notre pain de ce jour ». Avez-vous déjà essayé de manger le pain d'il y a 3 jours? En règle générale, non, je parle du pain sans le micro-ondes, sans les inventions technologiques qui vous permettent de le ramollir. Avez-vous déjà essayé de manger du pain rassis? Pourtant, c'est ce que nous faisons lorsque nous basons notre vie sur les révélations du passé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as entendu la révélation d'aujourd'hui? Il y a un discours que Dieu te tient chaque matin. Lorsque tu te lèves, il y a une nouvelle parole que Dieu veut te donner. De la même manière qu'il y a une nouvelle nourriture que tu dois manger chaque matin pour nourrir ton corps, tu dois entendre une nouvelle parole pour nourrir ton esprit. Les pharisiens avaient entendu une parole, c'était la loi de Moïse. Moïse était mort, tous les prophètes étaient morts, mais les pharisiens continuaient à baser leur vie sur la loi de Moïse. Tout le monde qui avait vécu sous cette loi était mort. Les pharisiens disaient, nous ne voulons pas des choses nouvelles, nous voulons des choses passées. Tu as besoin de choses nouvelles. Alléluia. C'est le deuxième danger auquel nous faisons face. C'est un danger que nous devons travailler. Je vous ai dit que la solution pour vaincre ce danger, encore une fois, c'est la révélation que vous avez de la parole de Dieu. Et surtout, la proclamation de cette révélation. Voyez-vous ? Les pharisiens voulaient tuer Jésus. Vous savez pourquoi ils n'arrivaient pas? Parce que la foule était acquise à la cause de Jésus. Et vous savez pourquoi est-ce que la foule a été acquise à la cause de Jésus? Parce que Jésus parlait des révélations qu'il avait reçues. Quand il libérait les révélations qu'il avait reçues, il y avait des gens qui commençaient à être acquis à sa cause au fur et à mesure. Tu sais, aujourd'hui, tu es à la merci des pharisiens parce que tu n'as pas encore assez touché les gens qui doivent être tes soutiens. Aujourd'hui, tu es à la merci des religieux parce que tu n'as pas encore gagné suffisamment de gens à ta cause. Comment tu vas les gagner? En faisant des miracles dans leur vie, en t'impliquant dans leur vie, en les bénissant, en leur faisant du bien, en disant du bien dans leur vie, en leur disant de bonnes choses. Plus tu prends ce qui est à l'intérieur de toi comme richesse pour le disposer dans la vie des gens, plus tu te... Tu as des gens qui vont commencer à être acquis à ta cause. Et vous savez, vous voyez souvent des gens, ils ont beaucoup d'amis. Sauf qu'ils ne savent pas pourquoi ils en ont beaucoup. Le peuple qui est acquis à ta cause sert à te défendre contre les pharisiens. Le peuple qui est acquis à ta cause sert à te défendre contre les gens qui veulent te critiquer dehors. Tu sais, il y a toujours ça. Tu as toujours des gens qui disent, moi je n'aime pas comment il parle. Moi je n'aime pas comment il fait. Mais qui va te défendre si toi-même tu n'es pas là-bas? C'est le peuple que tu as gagné. Mais si tu n'as gagné aucun peuple, les pharisiens critiqueurs seront toujours au-dessus de toi. Ils réussiront toujours à te tuer dans le secret. Parce que leur objectif est simple. Ils veulent tuer Jésus. Tu as dit de bonnes choses du haut de l'estrade. Mais dans le secret, il y a des pharisiens qui travaillent, qui décrochent leur téléphone, qui disent non, nous ce que nous avons appris c'est pas ça. Ce gars-là vraiment j'ai l'impression qu'il ne marche plus dans la foi. Il a peut-être commencé à aller toucher des choses bizarres. Peut-être qu'il a commencé à aller toucher des choses mystiques. Je me souviens, ça devait être en 2005. En 2005 j'ai fait un séminaire dans une église à Libreville. Et puis vous savez qu'avec Dieu, normalement, vous êtes censé progresser. Normalement. Et puis, pendant ce séminaire, simplement, Dieu m'a fait faire des choses que je n'avais jamais faites. Je me suis surpris à enlever ma veste et puis à la jeter sur des foules qui étaient saisies par l'Esprit de Dieu. Et il y a un frère qui m'a vu grandir dans l'église. Il connaît mon père et il connaît ma mère. Il connaît mes frères et il connaît mes sœurs. Voilà comment le frère, quand il a vu les choses que Dieu faisait, il a commencé à dire, oh, vous là, franchement, vous avez vu le prophète là, il est venu, il a commencé à jeter des vestes. Vous êtes là, vous dites Amen. Vous savez où est-ce qu'il est allé toucher? La magie noire ou blanche, je ne sais pas ce qu'il a donné comme définition. Mais pour lui, il était impossible que Dieu fasse ça. Vous voyez comment on est endommagé en tant que chrétien. Il faut que tu gagnes ton peuple. Dis à ton voisin, gagne ton peuple. Décroche ton téléphone et gagne ton peuple. C'est ton peuple-là qui va te défendre lorsque les pharisiens vont se lever contre toi. C'est ton peuple qui va te défendre lorsque les sadducéens vont se lever contre toi. Je dis, à cause de ton peuple, les pharisiens auront peur de toi. Ils n'avaient pas peur des miracles de Jésus. Jésus faisait le miracle, il faisait... Ça, c'est bête. Le prince des ténèbres, c'est par lui qu'il est en train de chasser les démons. Les pharisiens n'ont pas peur de ton onction. Ils ont peur de ton peuple. Les pharisiens n'ont pas peur de ton miracle. Ils ont peur de ton peuple. Je dis, et c'est pour ça que Dieu dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que quelle que soit la grandeur de ta vision, quelle que soit la grandeur de ta puissance, quel que soit le niveau de ton autorité, si tu es seul, il n'est pas bon. Il faut que tu sois avec ton peuple. Il faut que tu sois avec ton peuple. Je dis, gagne ton peuple. Dieu a mis en toi les moyens pour que tu gagnes ton peuple. La première chose que Jésus-Christ fait, quand il sort du désert, il va dans une synagogue. Il ouvre le livre d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il parle. Et puis à la fin, il dit, cette parole s'accomplit pour vous aujourd'hui. Quand il dit ça, tout le monde le regarde. Il voit les gens qui commencent à enlever les chaussures. Pendant qu'il passe, il commence à entendre les murmures. Lui, là, on va lui faire sa fête aujourd'hui. La Bible déclare que tout le monde a commencé à le pourchasser. Bon, vous voyez dans les films comment c'est représenté. Vous avez l'impression que Jésus marche doucement. C'est quand même le Fils de Dieu, le roi des rois. Donc, vous avez l'impression qu'il a une démarche calme. Pendant que... Non, c'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que les gars étaient en colère. Ils ont dit aujourd'hui, toi, on te tue ici, là. Ils ont pourchassé Jésus. Voici maintenant le Fils de Dieu qui était en train de galoper. Pendant qu'il court comme ça, on lance une babouche, il esquive. Il dit, oh, vide. Et il continue à courir. Pendant qu'il continue à courir, on lui lance un caillou. L'Esprit de Dieu lui dit, franchement, si tu restes dans cette position, le caillou là va te taper en pleine nuque. Penche-toi un peu. Oh, vide. Il continue à courir. Il arrive maintenant. À un moment donné, il arrive maintenant, il veut continuer à courir, mais oh, falaise. Les gars lui disent, bon, on va aujourd'hui, toi tu es fini. Et c'est là que la Bible dit qu'ils ont voulu le tuer, mais il a réussi miraculeusement à se faufiler au milieu d'eux. Vous savez pourquoi? Vous savez ce qui s'est passé là? Le problème, Jésus a compris à ce moment-là qu'il faut que j'aie un peuple. Quand il est parti de là, il a vu quelqu'un qui était en train de pêcher. Il a dit, Pierre, toi tu es suffisamment baraqué, tu es suffisamment costaud, viens avec moi, je te verrai pêcheur d'homme. Pierre a dit, moi si je viens. C'est le même Pierre. Lorsque les mêmes gens viennent pour arrêter Jésus, le même Pierre a dit, la première fois vous avez voulu le tuer, je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pierre a enlevé son couteau. Il a dit, viens maintenant. Regarde, on te pourchasse, tu es obligé de courir parce que tu n'as pas gagné ton peuple. Quand il fallait rendre service aux gens, tu ne rendais pas service. Donc les gens n'ont pas d'amour pour toi. Donc les gens ne veulent pas te défendre. Donc les gens ne veulent pas t'aider. Gagne ton peuple au nom de Jésus. Ma Bible m'enseigne que quand ils ont parlé entre eux, ils ont dit, il vaut mieux le tuer, mais pas pendant le temps de la fête. Ça veut dire que Jésus, il y a des temps, quand on est avec Jésus, il y a quand même des temps de fête, et il y a des temps là où ce n'est pas la fête. Oui, il y a des moments là où avec Jésus c'est la fête, tout nous réussit, tout se passe bien, toutes les opportunités sont créées, tu pries aujourd'hui, 5 minutes après tu vois l'accomplissement de ta prière. On prophétise à l'instant, 10 minutes après, tu vois l'accomplissement de la prophétie. En fait, tout est, les Ivoiriens disent, c'est huilé. C'est-à-dire que tu sens que ça coule, c'est lisse. Mais à un moment donné, lui-même, il a dit, resserré est le chemin, tortueux est le chemin qui mène à la vie éternelle. Ton christianisme, à un moment donné, devient maintenant tortueux. Ça devient maintenant... C'est-à-dire que pour être chrétien, tu es obligé maintenant d'être tordu. C'est ce qui s'est passé avec Jacob quand il a rencontré Dieu. L'ange l'a tapé. Après, il était maintenant tordu. Il marchait maintenant comme ça. La Bible déclare que l'ange avait tapé au niveau de la hanche. Vous savez pourquoi? Parce que dans les choses de Dieu, des fois, Dieu permet que tu sois déséquilibré dans le naturel pour être équilibré dans le spirituel. Ouais, tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas dans le naturel. Il te déséquilibre. C'est lui des fois qui tape ta hanche. Parce qu'il sait que s'il te donne le travail, là tu vas l'abandonner. Donc il tape ton travail. Il te dit que s'il te donne l'argent, là tu vas l'abandonner. Il tape ton argent. Il se dit que s'il te donne la santé, tu vas l'abandonner. Il tape ta santé. Quand Renard Bonquet est arrivé à Libreville au Gabon, il a fait une conférence. Il a prêché l'évangile. Les malades ont été guéris. Parmi ces gens-là, il y avait un paralytique. Toute sa vie, il était sur un fauteuil roulant. Il a été guéri. Le lendemain de la guérison, il était maintenant à la gare routière en train de braquer les gens. Il était maintenant en train de menacer les gens. Donne-moi ton argent, sinon je te tue ici. Le surlendemain de sa guérison, il s'est retrouvé dans un fauteuil roulant. Dieu lui a dit, toi, donc quand je te guéris, c'est pour aller braquer les gens. Retourne dans le fauteuil. Là-bas, tu faisais moins de mal. Il te déséquilibre dans le naturel pour que tu sois équilibré dans le spirituel. S'il y a des choses que tu n'as pas encore reçues, demande-toi comment tu vas te comporter quand tu les recevras. Parce que sinon, tu risques de les perdre parce que tu n'as pas su les gérer. Comment ça veut dire? Ça veut dire quoi, savoir les gérer? Ça veut dire continuer à garder Dieu en priorité quand tu les as. Même Salomon a fait cette prière. Il a dit à Dieu, bénis-moi, mais attention, ne me bénis pas trop, de peur que je t'oublie. Et il dit aussi, ne me bénis pas trop peu, de peur que je ne te renie et que j'aille chercher la solution ailleurs. Salomon, le plus sage, a dit, Seigneur, je veux que tu me bénisses, mais de manière équilibrée. Tu sais, tu es la seule personne qui peut déterminer l'équilibre de ta bénédiction. Si tu as suffisamment de maturité spirituelle, Dieu te qualifie pour que tu vives l'abondance. Mais si tu ne vis pas l'abondance, c'est parce que Dieu ne t'a pas encore qualifié. Il dit, lui, quand je vais le bénir, il va souffrir. Quand je vais le bénir, tu sais, l'objectif de Dieu, c'est pas tant ton argent. L'objectif de Dieu, c'est ton âme. Donc il dit, même si aujourd'hui tu dois souffrir dans la pauvreté et après ton âme est sauvée, je préfère, tant qu'à choisir, je préfère t'avoir avec moi pour l'éternité plutôt que de t'avoir riche là aujourd'hui sur la terre et de te voir ensuite mourir en enfer et souffrir pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. Les pharisiens n'attaquent pas pendant les jours de fête. Quand tout va bien dans ta vie, c'est pas là que les pharisiens se lèvent. D'ailleurs, en général, quand tout va bien dans ta vie, les pharisiens disent de bonnes choses sur toi. Quand tout va bien, quand tu es conforme, quand tu es riche, les gens qui étaient tes critiqueurs d'hier sont tes admirateurs. Ils disent, ah, lui, il est vraiment bien, c'est un frère merveilleux, parce que tu lui as laissé 100 euros la dernière fois. Ah, lui, il est vraiment bien, c'est vraiment un frère bon, un frère généreux. Mais laisse tomber. Permets un peu de temps simplement qu'ils ne mangent plus à ta table. Et tu vas voir comment est-ce qu'ils vont tourner la bouche. La Bible dit que pendant les temps de fête, les pharisiens avaient peur de toucher Jésus. Alors, de deux choses l'une. Soit tu te bats pour que ton christianisme soit toujours au high level. Et que dans ton christianisme, en tout cas dans ta spiritualité, ce soit toujours la fête. Même si parfois dans le naturel, ça ne l'est pas. Soit tu te bats pour vivre toujours la fête et tu maintiens les pharisiens à distance de toi. C'est le feu que l'on allume et que l'on maintient, qui garde les lions et les bêtes sauvages à distance. Parce que quotidiennement, tu nourris ta spiritualité. Soit tu pars du principe qu'il y aura des hauts, il y aura des hauts et il y aura des bas. Si tu es au courant de cela, tu peux d'avance prendre les bonnes décisions et de dire, même quand il y aura des bas, il y a un niveau que je ne dois pas atteindre. Il y a des standards en dessous desquels je ne dois jamais descendre. Ah, il y a des chrétiens, quand ils sont dans le bas, ils sont dans un bas tel que c'est difficile d'aller les sortir de là-bas. J'ai rencontré un frère extraordinairement appelé par Dieu, prêchant l'évangile avec des signes et des prodiges, qui aujourd'hui vous dit non. C'était pas Dieu, c'était les mathématiques. Quand j'ai vu la cataracte être ôtée de l'œil de cet aveugle, En réalité, ce n'était pas Dieu, c'était les mathématiques. Vous avez des gens, parfois, quand ils tombent là, ils sont descendus tellement bas qu'après, c'est difficile. Donc, quand tu sais que dans ton christianisme, il va y avoir des bas, aujourd'hui même, prends déjà la décision de ne jamais descendre trop bas. Laisse que le diable, s'il le veut, et si Dieu le permet, il pourra peut-être atteindre certains domaines de ta vie. Mais ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole, ça doit toujours rester au top. Quand Jésus-Christ souffrait, le martyr, Jésus priait. C'est ce qu'il a fait. Il n'est pas allé à Gethsémané pour pleurer. Il n'est pas allé à Gethsémané pour se plaindre. Il n'a pas dit, bon, écoutez, Pierre, Jacques et Jean, c'est vrai que dans le quartier, nous sommes ensemble depuis un certain temps. Vous m'appelez même Rabbi. Mais vraiment, vu ce que je suis en train de voir là, je pense que je vais d'abord me retirer un peu. Jésus se retirait. Mais les chrétiens se retirent. Est-ce que les chrétiens ne se retirent pas? Pasteur, vraiment, nous sommes ensemble depuis longtemps. Il n'y a pas de problème à l'église. Il n'y a pas de problème et tu ne viens plus. Non, je n'ai aucun problème avec personne dans l'église. Mais pourquoi tu ne viens plus s'il n'y a pas de problème? Non, parce que tu sais, pasteur, ma vie est telle que, franchement, j'ai pensé que c'est quand même mieux. Non, pas j'ai pensé. J'ai décidé que c'est quand même mieux que pendant un temps je puisse me retirer. Ça arrive tous les jours, ça. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui même, mais en fait, vous êtes un retiré. Je prie afin que les retirés soient ajoutés au nom de Jésus. Non, 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 non. La diminution, ce n'est pas la diminution de membres dans le royaume des cieux. Jésus nous diminue les problèmes. Enfin, non, pas exactement. Jésus nous diminue le manque de solutions. Et il nous ajoute les opportunités. Quelqu'un dit amen. Donc, ce n'est pas ton âme que Jésus doit diminuer, non. Ce n'est pas ta présence à l'église qui doit diminuer, non. Ce ne sont pas tes dîmes et tes offrandes qui doivent diminuer. Quelqu'un dit amen. 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 Ce n'est pas ton humilité qui doit diminuer. Quelqu'un dit amen. Non, pasteur, tu sais, moi j'ai pensé qu'il vaut mieux que je me retire. Mais non. Non. Si Jésus se retirait, imaginez un instant. Un jour seulement dans l'année, Jésus dit, bon, moi je pars en vacances. Gabriel, Michael, moi je m'occupe plus de rien pendant un jour. Oh, mais Seigneur, Chilo est en train de prier. Ah non, non, Chilo, il me fatigue. Vous débrouillez vous-même. Moi, quand je vois la situation du monde évoluer aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il est bien quand même que je me retire pendant un temps. Parce que je dois discuter avec moi-même. Je dois me retrouver à l'intérieur de moi-même pour savoir exactement est-ce que je continue à m'engager dans ce monde, ou bien je le laisse. Il faut que dans ta vie de prière, ce soit toujours les temps de fête. Il faut que dans ta méditation de la parole, ce soit toujours la fête. Il faut que dans ta sanctification, ce soit toujours la fête. J'ai entendu des gens qui disent, ah pasteur, la vie de l'église là c'est dur. Moi je cherche à me marier depuis 5 ans, je ne trouve pas de mari. Donc je vais d'abord descendre un peu. J'ai choisi de me retirer d'abord des activités de l'église. Quand il se retire comme ça, il ne te dit pas pourquoi il se retire. Mais en fait, il se retire parce qu'il va aller chercher une petite là-bas. Je me retire d'abord. Et puis il se retire. Il sait que s'il va la chercher, qu'il est actif dans l'église, tout le monde va le critiquer, tout le monde va parler. Donc il se retire d'abord. Donc vous ne le voyez pas. Suis pendant 1 an. Ou pendant 6 mois. Et 6 mois après, vous le voyez revenir. Oh frère, comment ça va? Oui, ça va pasteur. Mais pasteur, il faut présenter même mon enfant. Oh. Mais ça c'est qui c'est ça? Mais vous êtes des gens dangereux. Tu as eu l'enfant là quand? Non, tu sais pasteur, c'est quand je me suis retiré un peu. Frère, que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, arrête de te retirer. Arrête de te retirer. Il faut que tu sois ajouté. Alléluia. Il faut être ajouté. Alléluia. Il faut être ajouté à la communauté. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu ajoutait à la communauté le nombre de ceux qui étaient sauvés. Je ne comprends pas quel est cet esprit qui ajoute qui retire à la communauté les gens que l'Esprit a déjà ajoutés. Il faut refuser cela. Ça doit toujours être la fête. Amen. Quelqu'un dit la fête dans ma vie de prière. La fête dans ma vie de méditation. Ah, la fête dans ma sanctification. Ça doit être la fête toujours, toujours, toujours. Toujours. Le ciel permet que le ciel se réjouisse toujours à ton sujet. Quand Dieu réfléchit à ta vie, à ta sanctification, à ta pureté, permet que Dieu se réjouisse toujours. Parce que au moment là où tu tombes dans la sanctification, ça devient difficile. Parce que tu donnes des arguments à Satan. Il dit que du mal soit dit de vous, mais qu'il n'en soit pas trouvé. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Ah, Jésus, aide-nous. Les pharisiens ne pouvaient pas l'attaquer pendant la fête parce qu'ils avaient peur du peuple. Le dernier danger dont je voudrais vous parler se trouve en Matthieu chapitre 27 au verset 24. Il est dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, dis avec moi, il ne gagnait rien. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Pilate est le troisième danger auquel vous serez confronté en tant que chrétien. La première chose que vous identifiez, quand un chrétien est touché par Pilate, la première chose que vous identifiez dans sa vie, c'est qu'il commence à se laver les mains. C'est le désengagement pur et simple de toutes les activités de l'Église, de toutes les choses qui concernent Dieu. Vous voyez le bien-aimé qui était actif au fur et à mesure qu'il commence à se recroqueviller sur lui-même. C'est celui qui restait toujours une heure après le culte, qui parlait, qui échangeait avec les frères et les sœurs, et qui, dès que vous avez terminé, une minute après, il est déjà parti. Il a pris sa voiture. Oh, le frère tel est où? Il n'est plus là. Pilate est extrêmement dangereux parce que Hérode n'a pas réussi à tuer Jésus. Les pharisiens n'ont pas réussi à le tuer. Mais Pilate est celui à travers qui Jésus est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux dans la vie d'un chrétien que le désengagement. Il n'y a rien de plus meurtrier dans l'Église que le fait de se laver les mains. Celui qui t'apporte l'eau pour que tu te laves les mains, c'est le diable. Celui qui t'apporte des raisons pour que tu te désengages du corps de Christ, ce n'est un autre que Satan lui-même, en personne, qui va te donner des raisons de dire « Ah, je ne veux plus travailler dans cette église. Ah, je ne veux plus faire ceci. Ah, je ne veux plus faire cela. » C'est le danger Pilate. Son objectif, c'est que tu te laves les mains. Vous savez pourquoi il s'est lavé les mains? Parce qu'il ne gagnait rien. Il y a des gens dans l'église qui sont convaincus qu'ils ne gagnent rien. Il dit, mais ça fait un an que je suis là. Ça fait 2 ans que je suis là. Mais je ne gagne rien. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, s'est lavé les mains. Qui ici pense qu'il ne gagne rien? Tu es dans le chemin, la ligne directe pour te désengager, pour te laver les mains et pour laisser Jésus à l'intérieur de ton cœur mourir. Et David avait compris cela. Et le chant que nous avons entendu tout à l'heure est dans cette même optique. Le seul élément, la seule arme que Dieu a mis entre vos mains pour vaincre le désengagement et pour vaincre Pilate, c'est « Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. » C'est le seul moyen pour vaincre Pilate.